Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir s'approcher maintenant de ton de grâce, recevoir de toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous conduire, que tu puisses guider le message, que ce ne soit pas juste de la théologie, mais que ce soit un réma que tu nous donnes de ta part à chacun d'entre nous. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre déjà juste quelques versets. Proverbe 10, 24. Ce que je vous conseille pour ce culte, prenez les notes au niveau des versets parce qu'il y en a quelques-uns. Et si vous voulez les notes, je peux les transmettre sans aucun souci. Proverbe 10, 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler des faux espoirs, c'est-à-dire que l'être humain aime placer son espoir dans pas mal de choses. Et tout ce qui sort, pour vous donner un contexte, tout ce qui sort de Dieu, de faire confiance à Dieu, de l'espérance en Dieu, c'est que des espoirs, comme on avait lu dans le premier verset, qui périra. L'espoir est une attitude qui appartient à la condition humaine autant qu'est telle. C'est-à-dire qu'un homme, une femme, l'être humain, sans espoir, il ne peut pas vivre, tout simplement. Et à cette expression que parfois ça m'agace, hein, ça ira mieux demain. Vous l'avez certainement déjà entendu. Et pourquoi ça m'agace dans un sens en tant que chrétien? Parce qu'on sait très bien que comme nous sommes pécheurs, comme ce monde est dirigé sous l'emprise démoniaque, sous l'emprise de Satan, ça va être très compliqué d'aller mieux. Ça va aller mieux demain. Par exemple, quand on a des difficultés d'argent, tout ça, on utilise cette expression, ah, ça ira mieux demain. Quand on perd une compétition de sport ou peu importe les choses, un accident de voiture, tout ce que vous voulez mettre dedans, ça ira mieux demain. En fait, en réalité, y compris pour aller au ciel. Quand vous allez à l'évangélisation, on entend quoi la plupart du temps? J'ai pas besoin de Dieu. Je suis suffisamment bon. J'ai pas besoin d'aller à l'église. Et j'utilise pas le mot parfait parce que, voilà. Mais je suis bon, j'ai pas besoin de Dieu. Pourtant, ils mettent leur espoir en eux-mêmes. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, il y a beaucoup à dire sur la fausse espérance que l'homme met, mais j'ai choisi juste quelques points. Mais regardez comme l'homme est tordu. Rappelez-vous ce verset, c'est pour ça que je commence bien, pour vraiment déprimer presque. Jérémie 17, verset 9, « Le cœur est tordu par-dessus tout, il est méchant, qui peut le comprendre ?» Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que l'homme, animal, comme on voit dans 1 Corinthiens 16, l'homme animal est capable de placer son espérance en n'importe quoi. Que ce soit même la nature, les arbres, les fleurs, les animaux, toutes ces choses-là. Et dans la Bible, on commence fort. On commence avec la tour de Babel. C'est la première fausse espérance qu'on peut donner comme exemple. Il y en a beaucoup, hein. Mais j'en reviendrai plus tard. La tour de Babel, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le déluge, il y a eu l'histoire de Noé. Dieu dit aux trois enfants de Noé, remplissez la terre, je veux bénir vous, les animaux, etc., etc. Et les êtres humains qui ne veulent pas disparaître, ils disent, dans Genèse chapitre 11, verset 4, ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Déjà, premièrement, on voit souvent que si on place notre foi, notre espérance en l'être humain, qu'est-ce qu'il fait naturellement? Il se détourne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit quelque chose, eux, ils font le contraire. Il y a beaucoup à dire sur la tour de Babel, même si en réalité, quand ils disent « faisons-nous un nom », c'est « n'écoutons pas ce que Dieu dit ». Ayons nos propres lois. Faisons-nous confiance que nous sommes capables de bâtir une grande tour qui touche le ciel. Mais une seule chose est sûre, c'est que le péché, ça nous aveugle. Pourquoi? Parce que notre point de vue d'en haut jusqu'en bas, quand on regarde même un bâtiment de, je ne sais pas moi, de 10 étages, on dit « waouh, waouh, ça touche le ciel ». Mais quand tu es au 10e étage, tu dis bah, « finalement, ça ne touche pas le ciel ». Le péché nous aveugle. Et parce que le péché nous aveugle et qu'on ne veut pas placer notre espérance, notre foi en Dieu, on la place en nous, on la place dans nos lois, on la place dans, vous avez vu, je suis capable de bâtir quelque chose. Vous avez vu, j'ai pas besoin, je vais même contrer ce que Dieu dit pour éviter qu'il remplisse de nouveau la terre. Je vais me construire une tour, comme ça je vais me réfugier. Et on sait ce que Dieu a fait, parce que c'était péché sur péché. Toutes les décisions, Dieu a amené la confusion. Pourquoi? Parce que leur espérance, c'était, elle est partie aussi vite que c'est arrivé. Ça, c'est un des exemples. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez, Jérémie 48, verset 7, on peut l'associer à la tour de Babel. C'est parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. C'est-à-dire, ton espérance, elle va tomber. C'est dingue, l'être humain sans Dieu, il est vraiment, waouh. La deuxième chose, un deuxième point parmi les centaines qu'il peut avoir, c'est s'appuyer sur ses propres capacité naturelle. Et là, nous avons un super exemple avec la bataille d'Aï. Pour vous donner un exemple, dans le livre de Josué, chapitre, on va dire chapitre 5, 6, etc., ils ont une grande victoire sur Jéricho, vraiment mais miraculeuse. Il y a un homme qui désobéit à Dieu, à Caen. On ne va pas entrer dans les détails là-dedans. Et là, comme ils ont vu qu'ils ont une telle grande victoire sur Jéricho, ils ont dit, Josué chapitre 7, verset 3, il revient auprès de Jésus et lui dit, « Oh, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000, c'est suffisant. » Ils ont mis leur confiance en eux, dans leur capacité. Et qu'est-ce que s'est passé avec ces 2 ou 3 000? Sauf qui peut. C'est vrai qu'il y avait le côté Achan qu'il fallait régler, mais quoi qu'il en soit, dans notre vie personnelle, c'est quand on arrive à Dieu en disant « Seigneur, ta grâce pour ce problème, ça va. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu permet qu'on tombe misérablement pour te dire « Cette grâce-là, c'est moi qui te la donne. » Si tu te tiens aujourd'hui devant moi, c'est par pure grâce. Et l'apôtre Paul avait bien compris. Si vous regardez dans Actes chapitre 9, il ne dit pas « Oh Seigneur, pardon, j'ai tué les chrétiens, j'ai emprisonné. » Il aurait pu se faire son cinéma, il pouvait tout simplement regarder à lui-même et avoir confiance dans ses propres capacités. Non, il a réalisé que c'est dans la faiblesse que Dieu montre sa gloire. Et le peuple d'Israël, ce qu'ils ont oublié avec Haï, c'est que c'est Dieu qui combat. C'est que c'est Dieu qui prépare le combat, c'est que c'est Dieu qui donne la victoire. Ce n'est pas mes propres capacités. Et c'est répété des dizaines de fois dans la loi hébraïque en disant, je ne t'ai pas choisi parce que tu es un peuple fort, tu es un peuple nombreux, tu es un peuple saint, tu es un peuple qui est sans péché. Ah non, non, non. J'ai pris le plus petit, celui qui a le cou roide, celui qui a tendance souvent à me désobéir. Je dis un truc, non merci Seigneur. Et ailleurs, chaque fois qu'on place notre confiance dans nos capacités, on se trompe. Et on se prend quoi? Le mur en plein visage. Mais on peut se dire, ok, Dieu a permis, parce qu'il y a eu un jugement sur Achan, etc. Et là, Dieu dit à tout le peuple, prenez tout le peuple. Il aurait pu faire comme Gédéon. Juste 300 personnes, c'est suffisant. Et non, c'est pour montrer que ce n'est pas le nombre qui compte. C'est en qui je place mon espoir. C'est en qui. Pas en quoi, mais en qui. C'est très important. Pour vous parler toujours un peu de ces capacités-là, on voit ça dans le livre de Samuel, dans le livre des rois, où il y a même des rois qui regardaient, j'ai une armée puissante. Le roi de Babylone, qu'est-ce qu'il dit? Je suis comme un dieu. C'est moi qui ai conquis ça, c'est ma force, c'est ma puissance. Qu'est-ce que s'est passé? Boum. L'espérance finie. Alors c'est vrai que heureusement qu'on a un Dieu gracieux qui ramène, qui corrige, parce qu'il nous aime. Mais chaque fois, quand on place dans nos capacités, quand on place dans nos forces et qu'on oublie que tout vient de Dieu, aïe, on se brûle les mains. Comme je disais tout à l'heure, Paul disait, dans Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pour nous, quand on va, vous savez, quand on part à l'évangélisation, c'est une forme de combat spirituel qu'il y a derrière. Si je me dis, comme dans le livre des Actes, on a ce passage, qu'il y a des personnes qui chassent des démons au nom de Paul, non, au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce qu'il dit les démons? Jésus, oui, je le connais. Paul, oui, je le connais. Mais vous? Et il ne faut pas qu'on oublie, le combat, ce n'est pas à nous. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui fait toutes choses. Comme je disais dans Jérémie 17, 9, l'homme, il est vraiment tordu. Le troisième point que j'ai relevé parmi les autres, c'est placer son espoir dans un objet. C'est ce qu'on appelle des idoles. Et là, pour vous donner l'histoire, c'est 1 Samuel chapitre 4. En gros, il y avait les deux fils d'Élie, je ne sais plus comment ils s'appellent, Ophni et Phiné, qui en fait, il y a Israël qui vont au combat. Il perd le combat face aux Philistins. Et ces deux sacrificateurs qui sont complètement à côté de la plaque, si vous lisez les chapitres précédents, qui déshonorent même Dieu, qui déshonorent même le culte que Dieu a établi, qu'est-ce que ces sacrificateurs disent? Oh, on va chercher l'arche. Ils vont chercher l'arche à Silo, son père. Je ne sais même pas s'il avait l'autorité pour lui dire non, non, vous ne la prenez pas. Et ils arrivent dans le camp et tout Israël pousse des cris de joie. Ouais! Ça y est, l'arche elle est là, on va gagner le combat. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, les Philistins qui s'encouragent pas leurs mots, ils perdent le combat. 30 000 Israélites, boum. Ils ont placé leur foi, leur espérance dans un morceau de bois d'acacia couvert d'or. Et ils ont oublié qu'est-ce que ça représente. Ils ont oublié qui a donné cette vision pour la construction? Ils ont oublié qu'est-ce que ça représente? Ils ont oublié que ce qui compte au combat, ce n'est pas le morceau de bois, hein? C'est la présence de Dieu. Et eux, ils ont mis toute leur confiance dans le morceau de bois et ils ont oublié Dieu. Vous voyez, des fausses espérances, l'être humain, il est capable de tout. Hein? Vraiment de tout. On a un autre exemple. Vous savez, quand le peuple d'Israël murmurait dans le désert, il y avait des serpents qui commençaient à mordre le peuple. Et Moïse, sur l'ordre de Dieu, il a fait un serpent d'Aaron. Ben, ce serpent-là d'Aaron, c'est devenu un idole. Tous les idoles que Dieu a envoyées les prophètes pour dire contre, ce qu'on voit dans le livre de Juges, ce qu'on voit dans toute l'histoire jusqu'à Babylone, on fait quoi? On élève les idoles. Non, 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 mon espérance n'est pas en toi parce que je ne te vois pas, parce que tu es trop loin, parce que tu sais ceci ou cela. Mais comme Aaron, il a fait quoi quand Moïse il était sur la montagne? Oh, j'ai une bonne idée, et si on fait un taureau? Ils ont mis leur espérance dans le matériel. Et nous, en tant qu'Église, on peut parfaitement placer notre foi dans le nombre de gens qu'il y a dans l'Église, dans ces nouvelles installations. Qui donne ça? Pourquoi nous sommes là? Qui donne la victoire encore une fois? le seul espérance, la seule espérance, c'est Jésus-Christ. Un autre espoir. Ça, on l'entend souvent à l'évangélisation. Respecter la loi et la tradition. Ah, les pharisiens et les scribes, ils étaient très forts pour ça. Ah, ils ne disaient pas maître, ils disaient maître à Jésus. Mais regarde ce que font tes disciples. Ils mangent sans se laver les mains. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu a donné une loi. Et oui, ils ont rajouté beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. Et ils ont tellement rajouté des lois qu'ils ont oublié la parole de Dieu. Et nous, quand on va à l'évangélisation, on dit quoi ? Oh, j'ai déjà été baptisé quand j'étais petit. C'est bon, je suis sauvé. Je peux avoir une vie, mais vraiment, de débouché. Oh, c'est pas grave, j'ai fait le baptême. Non, non, ça s'appelle placé dans une tradition, placé dans une loi. C'est pas ça qui donne l'espoir. Ah, mais je vais tous les dimanches à l'église. Ouais, et puis les autres jours de la semaine, ah ben les autres jours de la semaine, je me comporte comme quelqu'un d'ordinaire. C'est pas parce que l'apôtre Paul, il va fort quand il parle aux Galates. C'est pas parce que je respecte la tradition, la loi, que forcément ça me donne de l'espoir. Je parle bien le véritable espoir. Parce que, comme je disais au début, l'être humain cherche toujours de l'espoir, mais c'est là la différence. Mais Dieu nous a donné une espérance pour que nous puissions vivre dans l'espoir. Vous voulez que je répète ? L'être humain naturel, il cherche de l'espoir. Théologiquement et par Jésus-Christ, Dieu nous a donné l'espérance pour que nous puissions vivre dans l'espoir, le véritable espoir. C'est fabuleux. Je peux m'amuser à respecter toute la loi de tous les pays si j'oublie que l'espérance, c'est un don que Dieu m'a donné et ce don-là, je peux le vivre maintenant. Il y a un autre point. Après, je promets, je vais arrêter les points. Les richesses de ce siècle. Les richesses de ce monde. Il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas ? On ne peut pas servir Dieu et maman. Qui en sert ? Ce n'est pas parce que j'ai des milliards ou des millions sur mon compte que je peux être rempli d'espoir. C'est vrai, ça aide, c'est vrai. Mais la plupart du temps, si vous lisez des psychologues quand ils parlent de la richesse, ils disent qu'avec l'argent, il y a aussi plein de soucis qui arrivent. C'est-à-dire que la richesse, c'est si éphémère. Toutes ces choses, c'est si éphémère. Regardez ce que Jacques nous dit dans Jacques 4, 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce qui est votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour si peu de temps. Les psaumes qui disent vous êtes comme une fleur. Aujourd'hui, il arrive, demain, il périt. À quoi ça sert d'amasser des trésors de ce monde ? Regardez, on a comment s'appelle ce passage ? Je vais essayer de le retrouver. Luc 12, 20. On prend à partir du verset 19. Donc, Jésus donne la parabole d'un homme qui a accumulé beaucoup de richesses. Il abat ses greniers, il construit des nouveaux, etc., etc. Et là, cet homme, il dit, comme beaucoup dans le monde, « Ah, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Verset 20. Et Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Vous avez vu, on peut, maintenant je vais vous donner dans tout ce qu'on peut faire ce faux espoir. C'est vrai, comme on disait, on peut être dans l'argent. Ça peut être un espoir dans le travail. Ça peut être un espoir pour trouver une femme parfaite. Ça peut être l'espoir dans mes enfants, dans les animaux, dans la maison. Ça peut être dans n'importe quoi l'espérance. Mais le seul qui donne une espérance sûre, solide, éternelle, qui nous accompagne jusqu'à dans l'éternité, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Ah là là. Je peux avoir le monde à mes pieds si je n'ai pas la paix dans mon cœur. Ça m'amène de l'amertume. Le cœur, quand il est malade, c'est tout le corps qui est malade. Si je n'ai pas, si, comment dirais-je? Humainement, je peux être le plus parfait, mais cette perfection m'amène à une fausse espérance qui périra. C'est intéressant. Pour nous, nous avons le choix. Soit on place notre espérance et on bâtit notre maison sur le sable. Matthieu 7. Il y a juste la pluie qui arrive et tout s'écroule, comme on avait vu le premier proverbe. Soit nous plaçons notre espoir en Jésus-Christ et on bâtit la maison sur le rocher. Quand la tempête s'abat, quand la pluie, le vent, les difficultés de la vie, elle s'abat sur cette maison, elle est ferme. Je peux courir derrière l'espoir que l'homme cherche, mais nous avons déjà reçu l'espérance en Christ. Voulez-je vous rappeler quelques promesses? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire actuellement pour nous? Il n'est pas en train de préparer une place pour nous au ciel. Ce n'est pas de l'espérance, ça. C'est quelque chose de concret. Quand Christ a dit, tout est accompli, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas une espérance en disant, Seigneur, je peux m'approcher du trône de grâce avec assurance. Parce que je sais que je suis accepté. Jean 6, 37, je ne le mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Ça, ce n'est pas une fausse espérance. C'est quelque chose de concret. Quand il nous dit dans Jérémie 29, 11, j'ai des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et une espérance. Ça, c'est du concret pour nous. Psaume 119, 114, tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Psaume 31, 24, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. C'est de concret. Psaume 130, verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. C'est quoi la promesse pour nous? C'est qu'un jour, Christ viendra nous prendre pour être éternellement avec lui. Un jour, Christ essuiera les larmes. Un jour, maladie, mort et tout ce qui est néfaste disparaîtra. C'est de concret. Pourquoi aujourd'hui je peux aller combattre le bon combat et garder la foi? Parce que j'ai mon espérance en Christ. Et cette espérance ne défaillit pas. Arrêtons de mettre dans ce que la société nous propose. Ah, si tu as un bon job, waouh, super, je vais mettre mon espoir là-dedans. Ouais, le job, ça vient à sa part. L'argent, ça vient à sa part. Ah, je vais placer peut-être dans la santé. Ben oui, mais le corps, il dépérit. Donc, je vais tomber malade. Et qu'est-ce qui se passe quand on place aussi notre espérance dans quelque chose qui est fragile, éphémère? Chaque fois qu'il y a un truc qui arrive, ça nous amène une condamnation. Je m'explique. Je place mon espérance dans la santé. Dieu permet que je sois malade. Qu'est-ce que je vais dire? Oh, qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu? Vous avez vu comme c'est lié? Je place mon espérance dans une compétition et que je la perds. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu? Ça amène la condamnation. Pourquoi? Parce que quand on place l'espoir dans des choses, comme je disais tout à l'heure, on perd la vision de Dieu. On oublie que c'est Dieu qui donne cette espérance. On oublie que c'est Dieu qui nous donne cette force, cette capacité de continuer. Vivons sincèrement cette expression, ça ira mieux demain, nous, on peut le dire. Parce qu'on sait notre avenir. C'est vrai, c'est prétentieux. Ben oui, mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que je suis accepté tel que je suis. La Bible dit que quand Christ viendra, on sera pris avec lui. Et vous savez, ce qui est surprenant, c'est que quand on a cette espérance, comme l'apôtre Paul, comme les disciples, comme les croyants en général, même dans la tempête, je peux adorer Dieu. Même dans la tempête, je peux adorer Dieu. Pour vous donner un exemple, quand il était en prison, qu'est-ce que Paul a fait? Je ne pense pas que c'était les mêmes prisons qu'aujourd'hui où il y avait un certain, je ne peux pas dire un certain luxe, mais je veux dire pas là. Il savait que son espérance est en Christ. Il savait que l'ancre est au ciel. Il savait que son chemin sur cette terre, il est court. Mais derrière, il y a mon Dieu qui m'attend. Comme Étienne. Pourquoi Étienne, il a pu prier pour les gens qui l'ont lapidé? Parce qu'il regardait à Christ. Il regardait à son espoir. On peut dire, oh là là, Seigneur, de concret, j'ai plus d'espoir pour ma famille, pour qu'ils se convertissent. Ok. Saisis-toi de cette promesse. Et c'est cette promesse qui va créer en toi une espérance. Seigneur, dans ces situations, je n'y arrive pas. Tant mieux. Enfin, tu laisses tomber pour que moi, je puisse faire à ta place. Et pourquoi Dieu a mis cela en nous? Pour qu'on puisse le glorifier. C'est ça le but. Pour que par nos vies, nous puissions l'adorer, le glorifier. Il y a beaucoup à dire sur l'espérance. Là, on met tellement d'espoir dans le vaccin contre le Covid ou contre peu importe les maladies qui peuvent exister. Mais peut-être qu'après, il y a autre chose qui arrive. Donc, c'est défaillant. Par contre, quand je place l'espoir dans le rocher qui nous suit dans le désert de nos vies, quand on place notre espoir dans l'œuvre accomplie, quand on place notre espoir dans cette attente ardente de son retour, on ne sera jamais déçu. Jamais déçu. Dans tous ces quatre petits points, cinq points que j'ai mis, ils finissaient comment les gens? Soit mort, soit déçu. Comme je disais dans le premier verset, la joie, je vais le relire avant de conclure. L'attente des justes, c'est nous les justes, l'attente des justes n'est que joie. Mais l'espérance des méchants périra. Le monde qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas Dieu, la Bible le déclare comme méchant. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, il nous déclare comme justes. Encore une fois, soit on est juste sans être coupable, et on a cette espérance. Soit on se sent, on se sent injuste, coupable, et on place notre foi dans tout le reste. Mais vous voyez, c'est tellement important. Ce n'est pas en quoi je place. Il faut faire attention, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les pro-écolos. C'est bien, il faut faire attention à la nature. C'est bien. Mais je ne dois pas placer mon espoir dans la nature. Pourquoi? Parce que je connais l'avenir. La terre, elle est maudite. Elle va être à la destruction. Donc un jour, je serai déçu. Par contre, quand je la place, encore une fois, en Christ, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Qu'est-ce qui reste en Corinthiens 13, 13? Maintenant, il y a la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce qu'on veut, non? C'est ce que le monde cherche. L'espérance. Waouh! Mais cette espérance est Jésus-Christ. Lui seul. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. On peut remercier notre Dieu pour l'espérance qu'il a placée dans notre cœur. Cette espérance, waouh. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, car tu ne chancelles pas. Merci, Seigneur, car on peut s'appuyer sur toi. Même quand on boite parfois, on s'appuie sur toi. On s'appuie sur ton épaule. Parce qu'on sait qu'on ne sera jamais déçu. Le monde, le faux espoir nous attire vers le bas. Mais toi, Seigneur, tu nous attires vers le haut. Comme on voit dans le livre de Daniel, tu le maintiens sur ses pieds. Seigneur, nous sommes tellement tentés de placer notre espérance, notre espoir dans les choses qui nous entourent. Mais ce soir, on veut le placer en toi et en toi seul. Parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, c'est tellement rassurant de savoir que tu ne changes pas. De savoir que tu nous portes comme Ésaïe 40. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand ils courent, ils ne se fatiguent pas. Quand ils marchent, ils ne se lassent pas. Et Seigneur, que ce que nous avons reçu ce soir, nous puissions le garder dans notre cœur. Et quand la tempête s'abat sur nous, nous voulons juste élever tes promesses. Cette espérance que tu as mis en nous. Pour se tenir à la brèche comme Néhémie. Pour élever la parole comme Esdras. Pour être un témoin comme Étienne et les autres. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Merci Seigneur pour ces promesses qui sont oui et amen. Ces promesses qu'elles sont pour nous. Et que ce soit dans la vieillesse, dans la maladie, dans le manque, dans l'abondance, tu nous donnes cette joie. Parce que notre cœur déborde d'espérance. Parce que tu nous as donné, Seigneur, de la clairvoyance pour regarder au-delà. Au-delà de ce que nous traversons, au-delà des choses visibles. Comme Étienne, Seigneur, nous voulons te voir au-delà de ce qu'il vivait. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Amen.